Je sais qu'on l'a cité des dizaines et des dizaines de fois cette année, la série fugueuse par rapport à la réalité de certaines jeunes filles. Sauf qu'à Québec, dans les derniers jours, on a vécu une histoire qui est un petit peu comme dans Fugueuse. Mais c'est, ça peut paraître un peu ridicule de toujours faire référence à une série de fiction, mais elle est bien documentée, la série, et elle présente une réalité qui se produit à Québec, à Montréal, un peu partout au Canada. Et c'est un cas de traite de personnes. Une jeune femme de 18 ans qui a été libérée par des patrouilleurs de la police de Québec alors qu'elle était sous l'emprise de deux présumés proxénètes, qui sont jeunes en passant, c'est des jeunes de 21 et 24 ans, une femme de 21 ans, un homme de 24 ans.
Ça, c'est les proxénètes, ça.
Oui, ça, c'est les proxénètes, donc c'est des jeunes. Oubliez le macro de 65 ans que vous imaginez, là, le vieux proxénète qui a son réseau de prostitution. On parle de jeunes qui utilisaient une jeune femme de 18 ans, donc ce sont toutes des personnes assez jeunes. C'est des policiers qui sont arrivés la matinée du 1er janvier vers 10h35, une personne en détresse dans un hôtel de Saint fois. Ils ont arrêté un individu de 24 ans, une femme de 21 ans, pour proxénétisme ainsi que traite de personnes. Proxénétisme, pour faire la différence, le proxénétisme, c'est donc vivre des fruits de la prostitution. Donc, c'est le pimp en tant que tel. Là, c'est celui qui va récolter des profits suite à la prostitution de quelqu'un d'autre. Tandis que la traite de personnes, selon le ministère de la Justice du Canada, la définition, c'est recruter, transporter, loger des personnes, exercer un contrôle ou une influence sur leur mouvement afin de les exploiter, généralement à des fins sexuelles ou de travail forcé. Autrement dit, c'est les séquestrer. Séquestrés dans le but d'avoir du travail forcé de leur part. Et les statistiques vont en augmentant du côté de la traite de personnes. C'est pas une situation qui s'améliore. Entre 2009 et 2016, on se retrouve avec plusieurs cas de traite de personnes. On parle de 865 victimes de la traite de personnes au Canada entre 2009 et 2016. Pour discuter de la problématique et également des enjeux de la prostitution à Québec, on va aller joindre la directrice du projet Intervention Prostitution à Québec, Geneviève Quinté. Bonjour, Mme Quinté.
Bonjour, Jean-Simon, ça va bien?
Ça va très bien. Est-ce que c'est le genre de cas qui peut vous surprendre, vous qui travaillez dans le domaine?
Ben, en fait, on n'est pas surpris parce que ce phénomène-là, il est encore bien présent dans la région de Québec, mais présent aussi au Canada puis à l'échelle internationale.
Mais quand on parle de traite de personnes, c'est une coche de plus. Là. On est au-delà du pimp. On parle de jeunes femmes qui sont séquestrées puis qui n'ont pas de liberté de mouvement.
Oui.
C'est quelque chose qui arrive à Québec?
Oui, mais dans les définitions, là, c'est ça, vous l'expliquez super bien, là, c'est que la nuance à apporter dans les cas de traite de personnes, c'est la notion de coercition. Donc, les jeunes filles sont appelées à offrir des services sexuels, mais sous la contrainte, sur l'influence, sont victimes d'agressions sexuelles, souvent sont séquestrées. Dans le cas de l'histoire de la jeune fille qui s'est passée à Québec, on peut prétendre qu'elle a été séquestrée dans une chambre de motel, puis qu'elle a dû, sous la contrainte des deux proxénètes, faire des clients à répétition, là.
Donc, on n'a pas affaire à une femme qui, par exemple, volontairement avait un protecteur ou un pimp, qui sont des cas, j'imagine, qui
peuvent se rencontrer. Non, on n'est pas là du tout, du tout. Puis, je dirais que la définition de la traite des personnes a aussi évolué avec les années, puis... je dirais que voilà une couple d'années, on parlait beaucoup de transport de personnes aussi, de vente de personnes ou de traite internationale. Mais de la traite de personnes, ça se fait aussi à l'intérieur d'un pays ou d'une ville. Là. Donc, puis la notion de coercition s'est ajoutée aussi avec les années. Parce qu'au départ, dans les premières définitions, on en faisait mention. Mais c'était une nuance qui était plus ou moins importante. Aujourd'hui, les questions de traite, c'est vraiment là la nuance la plus importante, c'est justement la notion de coercition et de contrainte. Mmh.
Je faisais référence à la série Fugueuse en ouverture un peu là,
oui.
Parce que bon, ok, c'est une œuvre de fiction, mais il y a souvent des parallèles qu'on tire, notamment l'âge des proxénètes. Là, c'est ça dans la série. Là, encore une fois, on a des jeunes proxénètes. Ça vient un peu contrecarrer l'image qu'on a parfois du pimp qui est un peu plus âgé. C'est souvent des jeunes qui jouent ce rôle-là.
Ben, c'est souvent les jeunes dans la vingtaine. Il faut aussi comprendre que les proxénètes doivent avoir un certain charisme, un certain charme aussi, un pouvoir de persuasion. Si les proxénètes étaient âgés de 45-50 ans, c'est sûr que ça peut être moins attrayant pour les jeunes filles aussi. Donc, puis quand on connaît aussi les modus operandi de ces gars-là, parce que le modus operandi de la séduction est encore présent. Donc, c'est sûr qu'une jeune fille de 13-14 ans, si elle se fait approcher par un jeune garçon de 22-23 ans, qui a la cote, qui est beau, qui est gentleman, ben c'est plus facile dans ce temps-là de que ces filles-là tombent dans le piège.
Mais dans le fond, on se rend compte que donc ces jeunes-là de dans la vingtaine qui sont les proxénètes, ça reste ceux qui sont un peu au bas de l'échelle, dans le fond, de cette organisation criminelle-là qui fait voyager des jeunes filles à une place puis à une autre puis qui leur fait faire des clients.
Oui, ouais, mais tu sais, les organisations, je suis pas une experte en organisation criminelle, mais il reste que des fois, ces jeunes garçons-là, eux-mêmes ont été recrutés par d'autres adultes, okay, pour justement leur force à séduire, puis qui, à leur tour, vont jouer ce rôle-là. Mais d'abord, ils ont été aussi recrutés. Fait que c'est important aussi de regarder le système d'exploitation sous toutes ses formes aussi, avec tous les acteurs qui jouent un rôle. Puis parfois, les garçons, ben souvent, ils ont le mauvais rôle, effectivement. Ça frappe l'imaginaire. On pense qu'ils sont tous des agresseurs, mais des fois, c'est intéressant de se pencher sur la trajectoire de ces jeunes garçons-là aussi, d'où ils viennent, puis pourquoi ils se sont rendus là.
Et des jeunes femmes aussi, parce que dans ce cas-ci, on a une jeune femme de 21 ans. Ça me frappe toujours de voir des femmes participer à l'exploitation sexuelle d'autres femmes.
Oui, ben en fait, on le voit de plus en plus. Puis, en fait, c'est un phénomène qui peut s'expliquer de plusieurs façons aussi. Il y a des jeunes filles qui vont sauter la clôture, c'est l'expression que j'emploie souvent, ou changer de rôle pour justement sortir du rôle de la fille exploitée. Puis c'est comme une façon pour elle aussi de reprendre du pouvoir, puis de changer de statut à l'intérieur d'un groupe de personnes.
Comme dans Fugueuse, il y en avait une d'ailleurs qui jouait ce rôle-là dans Fugueuse, qui jouait l'espèce de marraine, si tu veux, là.
Oui, la marraine, puis en même temps, on le voyait bien aussi dans la série que cette fille-là était aussi sous le joug de son chum. Tu sais, fait que justement, il y a ces filles-là, ils vivent une ambivalence constante aussi dans la culpabilité en même temps, des fois, de recruter d'autres jeunes filles, puis en même temps, avoir la préoccupation aussi de sauver sa peau, là.
Dans ces cas-là de traite de personnes, ce que je vois comme image aussi, c'est un certain mouvement des gens. On entend souvent parler de cas de jeunes Québécoises qui se retrouvent dans l'Ouest. Est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, les jeunes francophones?
Ben, moi, je suis tout le temps prudente dans ça prend-tu de l'ampleur ou pas, mais ce que je peux confirmer, c'est que c'est encore là. Puis effectivement, les Québécoises sont ciblées parce qu'il y a un attrait pour les French Canadiens. Donc, il y a un côté exotique. Puis en même temps, le fait, la barrière de la langue fait aussi que c'est plus facile de contrôler ces filles-là quand elles se retrouvent justement en Alberta, en Colombie-Britannique ou dans des provinces anglophones. T'sais. Mais oui, il y a un attrait. C'est clair que il y a un chemin qui part de Québec puis qui transite parfois à Toronto, Niagara Falls, puis qui s'en va jusqu'à Calgary, puis des fois jusqu'à Vancouver, là. Mais effectivement, à Québec, là, on est je vais pas dire une pépinière, je vais pas utiliser ce mot-là, mais non, vraiment, les filles sont recherchées ici, là.
Puis on a vu des histoires aussi dans la région de Laval, notamment des dernières années. C'est vrai que le terme pépinière, je sais pas si c'est le bon, mais si, bah, les histoires s'accumulaient, c'était assez inquiétant, là.
Ah oui, puis heureusement, tu sais, quand même que la Sécurité publique Canada, en fait, le gouvernement fédéral, même le gouvernement provincial, j'ai participé à une consultation à l'automne menée par le fédéral, c'est une consultation canadienne, justement pour mettre à jour le plan d'action contre la traite des personnes. Donc, il y a des efforts qui sont mis, il y a de l'énergie, il y a des ressources humaines qui sont déployées à travers le Canada aussi aux enquêtes. Parce que je lisais aussi dans l'article, tu sais, qu'il y a vraiment une augmentation des cas depuis 2009. Mais il faut aussi comprendre que depuis 2009, il y a plus d'énergie qui est mise aussi à combattre ce phénomène-là. Donc, on comprend que ça, tu sais, quand même, ça a du succès parce que, tu sais, il faut que les jeunes femmes, puis on parle de jeunes femmes, mais ça peut être des garçons, puis on parle d'exploitation sexuelle, mais la traite aussi, ça concerne le travail forcé en général, mais il faut accompagner ces jeunes-là rapidement quand ils sortent du milieu. Il faut être en mesure de leur offrir aussi une protection physique parce que souvent, ils ressortent de là avec des conséquences importantes, avec des symptômes de choc post-traumatique. Donc, il faut être en mesure de leur offrir des services spécialisés. Et à Québec, on s'organise, on travaille beaucoup en intersectoriel, oui, auprès des mineurs, mais aussi auprès des majeurs. Puis on le sait qu'à 18 ans, Il y a plus de services au niveau de la protection de la jeunesse. Donc, il faut nous autres prendre la relève comme organisme communautaire, mais le réseau de la santé aussi doit être là, ouais, et être capable d'offrir ces services spécifiques. Puis aujourd'hui, c'est difficile d'avoir accès à des services de sexologie, par exemple, ou en post-trauma, quand tu as 18 ans et plus. Souvent, il faut que tu te tournes vers le privé. Puis c'est très onéreux, hein.
Souvent, c'est vrai que donc on essaye d'aider les victimes, de les sortir de ces milieux-là. On blâme beaucoup évidemment les organisations criminelles ou les proxénètes, mais j'ai comme l'impression qu'on blâme très peu les clients. Trouvez-vous comme moi que les clients ont un peu comme une espèce de passe-droit alors qu'ils sont centrales dans cette industrie-là?
Ben, t'as tout à fait raison.
Mais non, mais c'est vrai.
C'est bien qu'il n'y a pas beaucoup de campagnes de sensibilisation qui s'adressent justement aux consommateurs. Parce que s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Fait qu'effectivement, puis là, en ce moment, le PIPQ participe à un projet qui est mené par un organisme des Laurentides qui s'appelle le Fort des Affranchis, mais qui implique aussi les deux associations hôtelières, celle de Montréal, celle de Québec. Il y a Uber aussi qui s'est joint au comité, mais pour aussi développer une campagne de prévention en milieu hôtelier.
Oui.
C'est-à-dire que si une femme... parce qu'on sait que le milieu hôtelier est un milieu qui accueille ces femmes-là, forcément, ouais, là, tu sais, c'est des espaces où ce que les services se passent là. Mais si une femme subit des agressions ou a besoin qu'elle puisse trouver à l'intérieur de l'hôtel l'aide appropriée ou quelqu'un qui va pouvoir la diriger vers les ressources d'aide. Donc, on est en train en ce moment aussi de construire une campagne de prévention qui s'adresse aussi à ceux qui consomment, tu sais, par rapport au consentement aussi. C'est pas parce qu'on paye pour des services sexuels que ça donne le droit d'agresser des femmes ou de faire des activités que les femmes qui sont pas, t'sais, qui n'ont pas autorisé, qui sont pas consentantes pour ça, là.
Est-ce que la légalisation éventuelle ou une différente législation dans le monde de la prostitution pourrait aider à contrer le phénomène de traite de personnes, d'après vous?
Ah, écoutez, je pourrais vous parler longuement de l'histoire de la prostitution parce qu'au fil des siècles, il y a toutes sortes de systèmes qui ont été mis sur pied pour essayer de contrôler par moment ou d'offrir une sécurité aux femmes. Moi, j'ai jamais cru que la criminalisation, mettons, de la sollicitation pouvait aider ces femmes-là soit à sortir du milieu ou à avoir plus de services. Mais je veux dire, en ce moment, il y a eu une décriminalisation à un moment donné, mais finalement, le Canada a viré de bord, là. Mais ouais, pour la première fois dans l'histoire du Canada, l'achat des services sexuels est devenu criminel. Mais moi, je crois qu'il faut décriminaliser, entre autres, les personnes qui offrent des services sexuels. Moi, je crois pas que la criminalisation va les aider. Au contraire, ça les pousse davantage dans la clandestinité. Ça les marginalise encore plus aussi. Et une des pires conséquences, à mon avis, de la prostitution, c'est la stigmatisation. C'est d'être vu comme un être humain de moins bonne vertu, si tu veux. Puis,
ouais, de classe inférieure, là, en quelque sorte. Là.
Et oui, puis c'est une étiquette que tu portes longtemps. Donc, mais en même temps, tu sais, il y a des filles qui proposaient d'avoir la liberté de s'organiser ensemble sous forme de coop de travail, si tu veux. Là,
ouais.
Tu sais, dire, ben, on peut-tu, nous autres, s'organiser puis être en mesure nous-mêmes de payer des gens qui vont nous protéger, qui vont nous offrir une certaine sécurité. Puis, ça, puis là, en ce moment, c'est difficile encore pour ces femmes-là de s'organiser puisque c'est les clients qui sont criminalisés, c'est l'offre. Donc, les clients sont ceux qui vivent en ce moment aussi. Ils ont peur de se faire prendre. Puis, je veux dire, ça a des impacts sur la négociation aussi du service que tu vas offrir avec ton client. Mais en même temps, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. C'est une question que je me fais poser souvent, mais il y a d'autres modèles qui existent dans le monde aussi. Il y a la Nouvelle-Zélande qui ont décriminalisé complètement et même l'achat du sexe est décriminalisé.
OK.
Moi, je crois d'abord qu'il faut consulter les femmes et les gars qui sont dans l'industrie du sexe et avoir leur avis d'abord. Je trouve assez qu'on leur donne pas assez souvent la parole. Puis en Nouvelle-Zélande, c'est un peu ça qu'ils ont fait aussi. Ils ont consulté des filles. Les filles ont participé aux consultations, à savoir comment vous voulez qu'on organise cette pratique-là. Et les pouvoirs aussi ont été redonnés aux municipalités. Donc, chaque municipalité va gérer l'industrie à leur manière. Mais il y a certaines municipalités qui, justement, bon, les clients sont dans l'obligation de porter le condom sous peine d'avoir des contraventions. Les filles s'organisent en coopérative de travail aussi, donc sont enregistrées à la ville. Il y a d'autres façons. Je dis pas que c'est la meilleure manière, mais ce que j'ai lu dans la littérature, c'est que ce modèle-là, en tout cas, a fait que la prostitution n'a pas augmenté, parce que souvent on pense que le fait de décriminaliser ou de légaliser, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un boom puis un gros développement dans l'industrie, mais c'est, ça n'a pas eu lieu en Nouvelle-Zélande. Mais en même temps, les pays nordiques, eux, ont criminalisé aussi l'achat des services sexuels. Ce que ça a créé, c'est une diminution importante de la prostitution de rue, entre autres. Mais ce que les recherches disent en Suède, c'est que les filles n'ont pas nécessairement cessé leurs activités. Ils ont plutôt migré soit vers le web ou migré vers les pays voisins. Fait que, tu sais, il y a aussi des combats d'études, j'appelle. Hein? Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de modèle parfait. Mais il faut quand même continuer à se questionner, à savoir quel est le meilleur modèle qui pourrait assurer une meilleure sécurité puis une meilleure dignité à ces personnes-là aussi.
Et les travailleurs, travailleuses du sexe à Québec, est-ce qu'en général, ce sont des gens qui travaillent de façon indépendante ou ce sont des gens qui sont sous le joug de proxénètes?
Oh, ben, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de filles qui travaillent de manière indépendante. Pour des raisons qu'on connaît dans le sens que ces femmes-là désirent préserver leur autonomie, parce que quand on travaille pour quelqu'un, on doit nécessairement donner la moitié à peu près de ce qu'on gagne. T'sais. Bon, parce que la personne pour qui on travaille, oui, va assurer notre sécurité, c'est eux autres qui vont prendre les appels, qui s'occupent de la logistique, mais il y a des filles qui veulent justement préserver leur autonomie puis dire, ben moi, je veux moi-même mettre mes limites, moi-même m'organiser, puis c'est plus payant pour elles aussi. Ça a ses avantages, mais les désavantages aussi, c'est qu'il y a des filles qui travaillent tout seules chez elles, tu sais. Dans l'anonymat, personne n'est au courant de leurs activités, puis je trouve que ça les place davantage dans l'insécurité. Donc, ils sont plus vulnérables à ce moment-là. Mais on travaille fort, nous autres, pour essayer de créer des liens via le web, via Internet, à se faire un petit coucou de temps en temps. On existe, voici nos services. Parce qu'on offre des services aussi en santé sexuelle. On peut se déplacer avec l'infirmière du C3S, offrir dépistage, vaccination. Donc, on essaie d'être vu et connu via le web aussi pour rejoindre les filles plus autonomes.
Geneviève Caeté, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.
Ça a été un plaisir, Jean-Simon.
Au revoir, à la prochaine.
À bientôt.
Geneviève Caeté, directrice du projet Intervention Prostitution, on commentait cette arrestation par la police de Québec de deux proxénètes et personnes qui vont être accusées de traite de personnes également dans un hôtel de Sainte-Foy le matin du jour de l'an. C'est une jeune fille qui a été délivrée en quelque sorte de ses ravisseurs et des gens qui la séquestraient. Mais vous voyez à quel point c'est complexe comme question. Là. De quelle façon tu encadres ça? D'abord, tu peux pas l'éliminer. Prostitution, il va toujours en avoir.
Mais je continue de penser que
c'est intéressant ce que tu disais sur les clients. J'aime ça, mais comment tu veux éliminer ça? Il y a toujours une demande pour ce service-là.
Mais il reste que ça, c'est une autre affaire que j'arrive pas à comprendre, moi. Tu sais, tu fais appel à une femme pour des services sexuels, une femme que tu payes, là. Je suis désolé, là. Mais on commence à les comprendre, les systèmes, là. On commence à comprendre un peu comment ça marche, là. La plupart de ces femmes-là sont des femmes qui sont exploitées. Comment tu peux prendre plaisir à ça? C'est déviant, pas à moitié.
Je pense que tu sous-estimes peut-être le désespoir de certaines personnes ou l'espèce d'impossibilité ou d'incapacité à connecter de certaines personnes. Je te dis pas que c'est bien, je te dis pas que moralement c'est bien puis qu'il y a pas quelque chose de répréhensible là-dedans, mais j'ai l'impression que bon nombre de clients, voire la majorité peut-être, ce sont peut-être des hommes qui sont pas capables de trouver, qui sont pas capables, ils réussissent pas à développer les habiletés relationnelles pour le faire. Ça se fait de façon consentante dans le respect. J'ai pas particulièrement de problème avec ça. Si la fille est indépendante, la fille garde l'argent et la fille est pas sous le joug de quelqu'un, c'est moi, encore, comme un mal nécessaire dans la société. Ça existe depuis que le monde est mort.
J'ai encore de la misère avec ça, moi. C'est très personnel, je suis pas obligé d'être d'accord, là, mais même moi, quand on me dit il y a des femmes qui font ça, qui ont décidé que c'est ça qu'ils voulaient faire dans la vie, puis évidemment, ben en 2018, les femmes doivent être libres de faire ce qu'elles veulent faire, puis si elles veulent être des travailleuses du sexe, c'est tel que tel, mais moi j'ai encore tendance à croire que même celles qui disent le faire parce qu'elles sont consentantes, parce que s'ils pouvaient faire d'autres choses, ils feraient d'autres choses, mais c'est payant. Puis il y a des moments dans leur vie où ils ont pris des décisions qui les ont amenés là. Puis peut-être s'ils pouvaient faire autre chose, elles feraient autre chose. Mais je peux pas croire, moi, qu'il y a des gens vraiment qui acceptent de vendre leur corps puis qui trouvent ça correct, là, tu sais. C'est peut-être conservateur comme façon de voir les choses. C'est très personnel, mais ça me rentre pas dans la tête.
Mais tu vois, présentement, les clients sont criminalisés, donc il y a un risque de te faire prendre puis d'avoir un dossier criminel. Ben, ce que certaines personnes m'ont dit dans le milieu, c'est qu'il y a certains bons clients dans le sens de gens qui avaient relativement des bonnes pratiques ou qui étaient respectueux.
Des bons comportements, ouais, c'est ça.
Qui n'osent plus. Mais ceux qui ont les mauvais comportements puis que de toute façon, ça les dérange pas de se faire pogner, ils vont pareil. Fait que ça a comme trier la clientèle de ceux qui voulaient vraiment pas se faire pogner ou ben qui avaient une réputation à perdre. Non, mais trop avec le pays.
Tu trouves pas que il reste que le client qui est respectueux, le client qui est gentil, qui est poli, qui est pas violente, qui respecte la fille qui paye pour avoir des services sexuels. Même à ça là, tu trouves pas qu'il y a quelque chose de déviant là-dedans? Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de...
Je te dis pas que je suis d'accord
avec
la pratique.
Là, c'est pas normal de faire appel puis de rémunérer quelqu'un des services sexuels, il me semble.
Je te dis juste que c'est depuis que l'humanité existe que cette pratique-là est là, que t'aurais beau l'éradiquer, ça, le plus vieux métier du monde, c'est pas pour rien. T'aurais beau vouloir l'éradiquer, tu l'éradiqueras pas. Et t'as juste à te déplacer à Montréal pour voir que la situation est encore bien pire qu'à Québec. Là. T'sais, à Québec, on a quelques salons de massage érotique, quelques agences d'escorte. Qu'il y a peut-être plusieurs dizaines de personnes qui se prostituent. Mais Montréal, c'est complètement autre chose. Les gens y vont directement parce que c'est une destination de tourisme sexuel. T'sais. Fait que malheureusement, moi, je pense pas que c'est le bon truc de criminaliser. Par contre, moi, j'aime l'idée coopérative de travail. T'sais, c'est bien. T'sais, je veux dire, les filles gardent le produit, il y a une certaine surveillance. C'est pas légalisé, c'est-à-dire que c'est pas l'État. On fait pas une SQDC de la prostitution. Là. Je pense pas que ce serait ça la bonne solution. Mais
non, elle parlait de décriminaliser.
C'est ça. Créer une espèce de cadre qui est sécuritaire avec des permis, peut-être, avec certaines choses. Peut-être que ça ferait en sorte que les filles soient plus en sécurité. Puis ça, c'est un pas en avant. Je te dis pas que c'est l'idéal, mais c'est un pas en avant. Puis dans ce monde-là, je pense que c'est une grande chose. 13h17. FM 80.